Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Tu n'as qu'une chance sur un million, c'est la phrase qu'on a répétée à mon invité au début de sa carrière. Et pourtant, 41 ans plus tard, il a gravi tous les échelons de simple gardien de la paix à commandant divisionnaire de police. Bonjour Rachid Azizi.
Bonjour Gérald Bouchon.
Vous publiez un ouvrage qui s'appelle « 1 sur 1 million », un témoignage poignant et sans filtre sur les coulisses de la société et de la police nationale. Pourquoi avoir choisi ce titre « 1 sur 1 million » On a parlé un petit peu dans l'intro.
1 sur 1 million. C'est l'expression de mon père à qui j'apprenais que je souhaitais rentrer dans la police alors que j'étais bien jeune. Et dans sa, je ne sais pas si on peut dire de naïveté, en tout cas dans sa culture, et vu qu'il n'y avait pas de policiers dans la famille, il eut pour réponse « ils n'en prennent que 1 sur 1 million ». Voilà, et j'avais trouvé cette formule assez forte, qui ne m'a pas d'ailleurs découragé, puisque j'ai quand même passé le concours.
Et réussi, oui. C'est une marque de fierté ou le constat d'une forme de déterminisme social qu'il a fallu combattre?
Je dirais les deux, mon général. Je pense que, oui, le déterminisme, je pense que, voilà, quand on se fixe un cap et quand on veut l'atteindre, eh ben, on se donne les moyens. On ne sait pas vraiment au départ, parce qu'on est soi-même, on n'a pas suffisamment d'expérience. Et puis ensuite, il y avait peut-être ce besoin de se prouver à soi-même que l'on peut réussir, même s'il y a des milliers de personnes qui passent le concours. Et puis de rentrer dans un environnement qui n'est pas forcément familier. Je vous parle ça des années 80 quand même. Et finalement, quand on réussit, on veut, j'allais dire presque, honorer la place que l'on occupe. Et ça a toujours été un peu mon fil rouge au cours de ces 41 années d'administration.
Vous êtes entré dans la police, comme on dit, par la petite porte, sans piste. Ni réseau.
Non.
Qu'est-ce qui vous a poussé au tout début à enfiler l'uniforme?
Je crois qu'il y avait chez moi, dans mon mode de fonctionnement, une forme de fascination envers des gens qui représentent, que ce soit l'autorité publique, qui représentent une fonction même régalienne d'une manière générale. Et je trouve que la police était vraiment, symbolisait tous ces éléments-là et participait justement à cette vision que j'avais de l'autorité et du rapport que j'avais envers cette autorité. J'étais toujours d'ailleurs très respectueux, très bon jeune homme, bien sous tout rapport, comme on dit.
On voit souvent la police à travers des prismes, à travers les séries télé, à travers aussi certains faits divers, certaines images chocs qu'on voit à la télévision, qu'on écoute à la radio. Dans votre livre, vous parlez surtout de la détresse humaine du quotidien. Quelle est la réalité de la rue qu'on ne voit pas forcément aux actualités?
Tout à fait. C'est à peu près ce que vous avez dit dans votre introduction. Moi j'ai appelé ça souvent les coulisses de la société, c'est-à-dire que vous voyez des choses que le commun des mortels ne voit pas forcément. Alors il le voit quand il est directement concerné, mais il n'a pas la même appréhension qu'on peut avoir en tant que policier. Je m'explique. Quand vous êtes sur scène, vous êtes face à un public, vous êtes visible. Quand vous êtes dans le public, vous êtes là aussi dans une place qui vous est attribuée. Lorsque vous êtes dans les coulisses, vous voyez ce que les gens ne voient pas. Vous êtes dans un angle, presque un angle mort, si je puis dire, et vous voyez toutes ces situations de détresse, parce que c'est aussi ça, le quotidien du policier.
Des exemples concrets, Rachid ?
Des exemples concrets, je dirais, le fait d'intervenir chez quelqu'un à l'occasion d'une perquisition, où vous perquisionnez, c'est-à-dire vous fouillez dans l'appartement de la personne.
À 6h du matin.
À 6h du matin, ou parfois à d'autres heures, mais c'est vrai, souvent à 6h du matin, c'est plus simple pour nous. Ça vous permet de découvrir des choses qui parlent de la vie de la personne chez qui vous vous introduisez. Il y a cette notion de un domicile est inviolable. Et le fait de rentrer chez une personne et de découvrir non seulement son quotidien, mais son intimité, de la découvrir telle qu'elle est, c'est aussi quelque chose qui vous fait réfléchir sur votre propre conception des rapports interpersonnels, par exemple.
Vous racontez notamment cette expérience que vous avez menée sur les contrôles d'identité, que vous avez voulu à un moment inversé.
Oui, j'avais fait, il y a de cela très longtemps, au tout début de ma carrière, j'avais constaté qu'effectivement il existait des contrôles qui étaient orientés envers une certaine population, pour ne pas les désigner, Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. Et je m'étais posé la question, je m'étais dit, comme j'étais un peu joueur, un peu peut-être taquin aussi, j'avais décidé moi-même de faire ce qu'aujourd'hui on appelle d'ailleurs le testing, à tester mes camarades, mes collègues, en moi-même en procédant à des contrôles de personnes, mais qui ne correspondaient pas au profil qu'ils avaient eux-mêmes déterminé au départ. L'idée était de créer une sorte de électrochoc, et je contrôlais des personnes âgées, blanches, voilà un peu le profil, voilà quel était mon cahier des charges. Et j'ai très vite vu la réaction de mes collègues qui ne comprenaient pas ma réaction, qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. Je dis « ah bon, très bien ». Je faisais le naïf naturellement, et je reprenais de plus belle, et je refaisais le même type de contrôle de personnes âgées. Quand je vous dis personnes âgées, pardon, mais c'est 80 ans quand même. C'était très délicat pour moi. Il fallait que je prenne sur moi. Mais par contre, j'y intégrais une autre donnée qui était celle de prendre des personnes avec un issu des ce qu'on appelle les minorités visibles d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord, et ils avaient la même réaction. Ce qui me faisait dire que ce n'était pas forcément ce qui apparaît tout de suite comme slogan, cette idée que la police serait de façon systémique raciste, etc. Mais ça révélait une sorte de profilage racial, alors racial quand même, qui était une sorte de réflexe. C'est là-dessus qu'on devait se poser la question, et non aller sous l'angle de rechercher sous l'angle de est-il ou pas raciste. J'ai envie de vous dire, quand vous commettez une infraction, le mobile est intéressant, mais il n'est qu'un mobile. Donc le but était de comprendre qu'est-ce qui conduisait un fonctionnaire de police, par exemple, à procéder à des contrôles qui sont liés justement à des profilages raciaux. Et l'idée, c'était aussi ensuite d'en parler avec mes collègues. Et je vous parle de ça il y a très longtemps, j'avais moi-même tout juste une vingtaine d'années, et c'était intéressant de pouvoir échanger avec eux. Parce que tout d'un coup, il y avait de l'échange, et on pouvait dire « ah bah oui, c'est vrai que là-dessus, on n'a peut-être pas été forcément très bon. Donc qu'est-ce qui nous a conduit à procéder à ce type de contrôle ?»
En 41 ans, justement, comment vous avez vu l'institution évoluer ? Qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier de policier entre les années 80 et aujourd'hui?
Quand je suis rentré dans la police, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait intégré le code de déontologie, ce qui était quand même un terme qui n'était pas forcément très connu par les policiers de l'époque. La déontologie, une sorte de ligne de conduite que les policiers devaient suivre.
Alors, le policier a plutôt l'habitude d'imposer une ligne de conduite.
Oui, c'est-à-dire que
aux citoyens.
Plutôt dans ce sens-là. Et puis surtout, on applique la loi, le policier applique la loi. Alors comment allons-nous créer une sorte de règlement, de code, le codifier le comportement des policiers? C'était quelque chose que je ne comprenais pas, alors que j'appliquais parce que j'étais un bon soldat. Mais tout d'un coup, je comprenais. Alors pour moi, c'était plus facile parce que finalement, je l'intégrais au moment où je rentrais. Mais les autres, vraiment, les plus anciens, je dirais, avaient plus de difficultés, considérant que c'était vraiment un accessoire peut-être politique. Mais moi, je m'en suis vraiment fait une sorte de doit-on être hors de tout soupçon quand on occupe ces fonctions, la puissance publique, l'autorité publique, le fait de pouvoir interdire à une personne d'aller et venir, quand même, ce sont quand même des droits fondamentaux, et de se dire que tout pouvoir doit nous obliger aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup, beaucoup animé au début de ma carrière et jusqu'à présent, bien sûr.
Et vous avez travaillé notamment au sein de la HALD, on peut peut-être rappeler ce que c'est la HALD.
Alors la HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui était une autorité administrative indépendante qui a maintenant fusionné depuis 2011, je crois, au sein du Défenseur des droits. Et j'ai été en détachement au sein de cette institution. Pour vous donner un exemple, j'ai pour ma part élaboré le guide pratique de lutte contre les discriminations en lien avec la direction à l'époque de la formation de la police nationale, où nous avons pu intégrer justement des éléments, des procès-verbaux, par exemple, toute la législation existante en matière de discrimination pour pouvoir permettre à ce que tous les policiers puissent prendre des plaintes de discrimination, être capables de les analyser, de constituer l'infraction, comme on dit, afin de pouvoir les transmettre à la justice qui décidera par la suite.
Et votre parcours a nourri votre réflexion là-dessus ?
Oui, ça a nourri vraiment ma réflexion. Je crois que, voilà, quelqu'un m'avait dit au tout début de ma carrière, lui était un commissaire divisionnaire qui partait à la retraite, et moi j'étais un jeune gardien de la paix qui rentrait dans la police, et il m'avait dit, c'était cette expression qui m'est toujours restée, c'est que la police est la meilleure agence de voyage. Et je crois que c'est ce que ça m'a apporté. Je me suis, dès que j'ai vu une opportunité, une situation qui me permettait d'évoluer, en tout cas de comprendre aussi la nature humaine, puisqu'on rentre dans l'intimité des gens, je vous parlais tout à l'heure des coulisses de la société, et ça m'a permis vraiment de pouvoir de découvrir l'individu dans son environnement, dans son écosystème, et de pas uniquement voir le délinquant ou la victime. La victime a une vie. Le délinquant aussi, il est délinquant parce qu'une situation s'est présentée, un contexte, sans l'excuser, sans, je ne suis pas là pour ça, mais chacun son rôle. Et je crois, là aussi, ma réflexion qui a été nourrie au fil de toutes ces décennies, c'est celle de dire le policier doit être dans son rôle d'appliquer la loi dans la mesure des possibles, de faire de la procédure. Il ne fait pas que du judiciaire, hein, il fait bien d'autres choses, de l'ordre public, enfin, et la justice est là pour juger. Mais parfois, ce mélange des genres fait que tout d'un coup, on a une tendance un petit peu à extrapoler. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup animé. Je considérais que je devais être à ma place et ça me convenait très bien d'être à ma place.
Vous avez aussi dirigé le groupe d'assistance aux policiers victimes face au stress, la violence, parfois au drame du suicide chez les forces de l'ordre. Oui. Comment fait-on pour ne pas sombrer dans le cynisme et pour garder son empathie?
Alors, je pense que ce n'est pas forcément incompatible. Vous savez, on rentre par une porte, on a la chance d'être pris, on remercie je ne sais pas quoi. En tout cas, on est heureux, on est fiers d'occuper la place qui est la sienne. On aide les gens, on ne fait pas que de la répression, on fait aussi de la prévention, mais on fait aussi de l'accompagnement, de l'assistance, du soutien. Et à un moment donné, en fin de carrière, si je puis dire, il m'a été proposé un poste à la tête du groupe d'assistance aux policiers victimes, le GAPV, au sein du ministère de l'Intérieur, la direction des ressources humaines. Et j'ai effectivement saisi cette opportunité qui permet d'apporter du soutien à ceux qui sont chargés de nous soutenir, de nous aider, de nous assister, les policiers en l'occurrence, parce qu'eux-mêmes aussi souffrent. Alors, je ne veux pas faire de la victimisation à outrance, mais c'est pour dire qu'on a tous besoin, l'un comme l'autre, les uns comme les autres, de soutien, d'aide. Et j'étais particulièrement fier de terminer ma carrière au sein de ce groupe d'assistance avec des agents qui vraiment se donnaient beaucoup pour aider leur père dans des situations que nous avions nous-mêmes rencontrées, parce que moi j'ai rencontré des situations assez dramatiques, des situations de solitude, la mort, des situations d'horreur où vous vous retrouvez tout seul dans votre appartement et où vous posez des questions sur quel sens vous voulez donner à votre vie. Alors oui, de l'empathie, oui, ce n'est pas un...
Et votre fin de carrière, je suppose qu'elle a été aussi marquée par les attentats, hein, par le Charlie Hebdo à partir de 2015.
Oui, bien sûr. Oui. Oui,
vous avez travaillé notamment sur un projet de musée du terrorisme, c'est
alors,
ça ?
Exactement. Alors j'ai, avant d'intégrer en toute fin de carrière le groupe d'assistance aux policiers victimes, j'ai été secrétaire général du musée mémorial du terrorisme, qui est une mission de préfiguration qui nous a été confiée par le président de la République, Emmanuel Macron, en 2018 de tête, fin 2017, début 2018. Et nous avons mis en place un comité mémoriel qui a réfléchi sur la façon de commémorer ces situations où la France a été frappé par les attentats au cours de ces dernières années. Et ça m'a permis aussi, là aussi, de confronter des récits, d'être au contact de victimes ou de familles, de proches de victimes. Pour vous donner un exemple, je connaissais pratiquement les trois quarts des victimes, que ce soit Charlie Hebdo, bien sûr, mais également du 13 novembre et d'autres attentats, notamment où la police a été aussi touchée. Et ça m'a permis, là aussi, de travailler sur le fond, sur comprendre le terrorisme, comprendre cette violence de guerre en temps de paix, de comprendre ce qui conduit à cette forme de violence dans une société où l'on croit être à l'abri, mais où, je me souviens qu'à l'époque, après l'attentat de Charlie Hebdo, les policiers étaient applaudis, j'ai moi-même été applaudi par le public dans la rue. Ça ne s'était pas produit depuis...
Même Renaud avait consacré une chanson aux policiers.
Oui, même Renaud avait consacré, donc vous voyez bien. Donc tout est possible, mais il faut que chacun reste à sa place, il ne faut pas penser que les attentats, c'est l'alpha et l'oméga de notre... ce sont des événements, c'est dramatique, etc. Mais il faut continuer à avancer. Une société ne se fait pas uniquement en comptant, j'allais dire, nos morts, nos victimes. Il faut aussi avancer, comprendre un peu mieux, plus en tout cas, ce qui conduit des individus qui ont été sur les mêmes bancs de l'école de la République, qui commettent ce genre de faits, sans désigner un auteur, un coupable. Je crois qu'il faut essayer de comprendre, et je pense que c'est comme ça qu'on avancera davantage dans nos rapports, d'autant que les tensions sont quand même de plus en plus fortes en ce moment.
Pour conclure, si vous avez un jeune en face de vous qui s'intéresse à la police et qui se dit je vais peut-être pas y aller parce qu'effectivement les dés sont pipés, qu'est-ce que vous lui diriez?
Je lui dirais, comme le titre de mon livre, si tu n'as qu'une chance sur un million, tente-la quand même, ça vaut quand même la peine, que c'est une aventure humaine, que cette aventure humaine vaut vraiment la peine d'être vécue, mais qu'il soit bien clair, il n'y a pas de héros dans la police, ou alors tous les policiers sont des héros, mais dans ce cas-là, tous les boulangers sont des héros, tous les commerçants, tous les journalistes, tout le monde est un héros, mais il faut le faire par conviction de vouloir bien faire son travail, et non pas chercher une sorte de quelque chose qui vous sortirait d'une sorte de quotidien. Non, je pense que la police est un métier, d'avenir aussi, qui va utiliser les méthodes, les moyens qu'elle a aujourd'hui, qui se développent de plus en plus, et avec des déroulements de carrière qui sont, je trouve, de plus en plus intéressants par rapport à avant. Et il ne faut pas, peut-être pas, enfin, on peut hésiter, mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi je rentrais dans la police. Aujourd'hui, je l'ai compris. C'est celle de cette conviction que finalement, je pouvais aider, mon prochain, en tout cas, aider l'autre qui est d'une certaine façon moi-même, quoi, d'une certaine façon.
Merci Rachid Azizi. Merci. On rappelle le titre de votre ouvrage, 1 sur 1 million, c'est aux éditions L'Armatan, un livre à lire pour comprendre l'envers du décor, on peut résumer ça ainsi.
Oui.
Vous êtes également l'auteur d'un podcast qui s'appelle Faire Nation,
oui.
Qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes.
Tout à fait, oui.
Dans le même esprit que votre livre, finalement.
YouTube, oui, c'est ça, qui marche plutôt bien et qui permet de recevoir des invités où j'essaie de leur laisser la place pour qu'ils s'expriment dans un domaine qui les concerne principalement.
Merci Rachid Azizi.
Merci beaucoup. Au revoir.